Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, votre dose d'amour bimensuelle. Tous les 15 jours, un couple qui nous ressemble accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur relation aussi unique. On parle tout autant de ce qui marche pour eux, d'erreurs ou d'enseignements, ou encore de leurs plus beaux souvenirs ensemble. L'objectif, c'est qu'en une trentaine de minutes, vous soyez inspirés bien sûr, mais aussi que vous puissiez, au travers de ces expériences partagées, vraiment apprendre de nos invités toutes les astuces qui font le secret de la longévité. Et si le podcast vous plaît d'ailleurs, pensez d'abord à vous abonner sur iTunes pour ne rater aucun épisode et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes, cela nous aidera énormément à partager tout cet amour. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur nos invités, vous pourrez retrouver leurs contacts et notre univers en allant simplement sur le site de Gemio, www.gemio.com, G-E-2-M-Y-O.com. Mais passons maintenant à nos invités du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot et Julien. Margot et Julien travaillent tous les deux dans le milieu de la pub à Paris. Ils ont la trentaine et sont ensemble depuis environ 6 ans. Ce qu'il y a d'intéressant avec Margot et Julien, c'est que leur histoire commence au fond vraiment à deux vitesses. Pour Julien d'abord, qui dès sa première rencontre avec Margot déclare à qui veut l'entendre qu'elle est LA femme de sa vie. Il le fait d'ailleurs bien savoir à toutes les amies de Margot, espérant que le message sera passé. Mais rien n'est révélé et celle-ci ne se rend compte de rien. Il faut dire en plus qu'à l'époque, Margot est en couple et n'envisage aucune relation avec Julien. Mais quelques années plus tard, devenue célibataire, elle tombe nez à nez avec l'image de Julien en profil sur un site de rencontre. C'est là que commence le début de notre belle histoire et certains diront sans doute que leur amour était prédestiné. Au-delà de leur passion commune pour la création, vous verrez que Margot et Julien ont un humour décapant et une bonne dose de recul sur eux-mêmes qui rend notre conversation aussi attachante qu'hilarante. Je suis Pauline Léniaud. Et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gemio. Salut Margot et salut Julien et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est pas facile de parler de son amour, mais on est ravis de vous accueillir et je suis sûre qu'on va passer un très bon moment ensemble. Est-ce que pour commencer, avant qu'on se mette à parler un peu des détails croustillants, vous pouvez me parler un petit peu de vous et vous présenter s'il vous plaît?
Absolument. Du coup, on a décidé de se présenter l'un l'autre, histoire d'échapper à cette torture qui est de se présenter soi-même. J'ai donc présenté Margot et Margot me présentera.
J'ai peur.
Donc Margot est une jeune parisienne de 31 ans qui est née aux environs de Bordeaux.
Très bien.
Qui a passé peu de temps là-bas et qui travaille dans la publicité, dans la même agence que moi, et qui est une personne qui est à la fois créative et inspirante et dont je suis amoureux depuis à peu près 6 ans maintenant. À peu près, parce qu'en fait, faut pas qu'on parle des dates après, c'est compliqué. Donc voilà, disons
très toujours. Belle présentation.
Mais c'était
allez,
magnifique.
Bon courage.
Non, mais c'est l'enfer.
Elle a un peu de pression.
C'est à
là,
toi maintenant.
Pourquoi tu me fais ça?
Désolée.
Julien, j'avais un truc hyper carré, c'était super chiant du coup. Je sais pas, il est beau, intelligent, très drôle surtout. Il est très très drôle. Il est très intelligent, très ambitieux. Donc parfois, j'ai du mal à suivre son ambition débordante, mais en même temps, ça m'élève au quotidien et surtout en fait on rigole bien ensemble donc voilà Julien je le trouve trop super.
C'est une très belle présentation aussi.
Ouais.
Merci beaucoup. Et alors du coup première question, est-ce que vous pourriez me raconter tout simplement comment vous vous êtes rencontrés? Et tu m'avais envoyé un mail Margot pour m'expliquer tout ça, donc à la rigueur je peux peut-être m'adresser à toi, notamment parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une première rencontre.
Oui, ça a été en plusieurs étapes cette affaire. Donc tout a commencé il y a 10 ans. En fait, on avait tous les deux un anniversaire d'une amie commune, enfin qui n'était pas du tout une amie à toi d'ailleurs, mais bon, une amie d'amie, peu importe. C'était sur les quais de Seine d'Austerlitz avec du mauvais rosé, des mecs qui faisaient des bolasses, enfin le truc de quand on a 22
ans. Jeune,
quoi.
On était jeunes.
C'était pas super glamour, mais en tout cas c'était très sympa. Et en fait, je sais pas comment on a été amené à parler ensemble, mais on a vraiment parlé toute la soirée pendant des heures et des heures. Il ne m'a pas lâché. Et c'était super. Sauf que moi, j'étais avec quelqu'un. Et donc, il n'y avait pas du tout de sujet de se mettre ensemble. Voilà.
Tu ne te poses même pas la question.
Non, c'était pas du tout le moment. Voilà. Et donc, du coup, la soirée se termine là-dessus. Belle rencontre, très sympa. Et voilà. Et puis après, en fait, je l'ai revu chaque année, une fois par an à peu près, à l'anniversaire de cette même amie commune. Et c'était devenu presque un joke, puisque à chaque fois, il me draguait éhontément et j'étais toujours pas disponible. Et puis lui, bon, ça le dérangeait pas outre mesure, en tout cas. Donc c'était le running gag. Et puis, Et puis voilà, les années ont un peu passé. Et puis 3 ans et demi après, 4 ans, je me suis séparée. Et on était un peu en contact quand même sur Facebook, mm-hmm. parce qu'on avait le même genre de job. Et donc, on s'était envoyé des trucs par-ci, par-là. Mais bon, rien de très intéressant. Mais peut-être on devait s'écrire 1 ou 2 fois par an, une connerie, quoi. Et puis, le jour où je me retrouve célibataire, je m'inscris sur un site de rencontre avec un copain. C'était Adopte un mec à l'époque, qui était à la mode. Ouais, donc, je fais mon... Ouais, voilà, c'était donc il y a 6 ans maintenant. Il n'y avait pas d'appli. Et donc, je me fais un petit profil sommaire. Bon, je vous passe les détails. Et puis, je tape ma recherche, surtout. Mm-hmm. Donc là, je fais, je sais pas, homme entre 25 et 30 ans, bac plus 5, point, quoi. Enfin, un truc hyper basique.
Hyper large, en plus.
Hyper large. Et non, mais ça me paraît ridicule de raconter cette histoire, mais c'est la vérité. Dans le top 3, je vois la tête de Julien qui apparaît. Et donc, drôle, en tout cas très drôle, parce que vraiment je m'y attendais pas du tout, j'étais pas du tout là-dessus, enfin voilà. Mm-hmm. Et puis comme on était un peu en contact, je me permets de lui envoyer un petit message, un truc nul genre ha ha ha, juste pour lui dire je t'ai vu, t'es là, c'est marrant quoi. Mm-hmm. Et ben ni une ni deux, évidemment il me répond on va boire un café, point. À peu près, non?
Ah oui, c'était assez assertif. Ouais. Ouais,
c'était, oui,
c'était, on n'était pas dans la question. Non,
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 d'accord,
on
très bien.
Dans l'assertion.
Il n'y avait pas vraiment de questionnement. Quoi. Et donc, on est allé boire,
tu vas boire un café.
Ouais, on va boire un café. Et en plus, il se trouve que parallèlement à tout ça, ma copine commune m'avoue, complètement bourrée en soirée, qu'en fait, ça fait des années qu'il dit que je suis formidable à tout le monde. Uh-huh. Et donc, je me dis, bah dis donc...
Ouais. Je vais raconter la même histoire après, mais de mon point de vue, comme ça, vous verrez que c'est pas exactement les mêmes ressorts.
Non, mais bon, voilà. Et donc, on va boire un café. C'est très sympa, mais bon, très sympa. Et j'avais rendez-vous après avec ma copine Camille qui me rejoignait. Je faisais une sorte d'enchaînement de café. Et puis, en fait, il est resté.
Il s'est incrusté
au café. Il s'est totalement incrusté.
Très bien.
Et il a fait une technique bien connue que moi dont j'avais pas connaissance, qui est de draguer la copine en fait.
Mais oui, la fameuse technique.
Classique. Voilà. Mmh. Et donc, en fait, il a dit à ma copine pendant 2 heures que tout ce qu'elle faisait était formidable et que tout ce qu'elle dit est passionnant. Quoi.
Donc tu sens la frustration
pas...
monter.
C'était pas faux. Non, mais elle est super, Camille.
Non, mais c'était pas faux. Mais bon, c'est juste que tu dragues. Enfin, voilà. En tout cas, tu te mets ma copine dans la poche très clairement. Et bon, c'était très efficace puisque, effectivement, à la suite de ce café, ma copine m'a harcelée pour que je rappelle ce type qui était forcément l'homme de ma vie.
Ah, donc elle, elle était dans le coup, elle était au courant
pas
que.
Du
pas du tout.
Elle non, mais elle a été conquise, elle l'a trouvé formidable, elle m'a dit, mais il est super, il faut absolument que tu le revoies, ce gars.
D'accord, donc la flatterie, ça marche à tous les coups.
À tous les coups.
Ça marche, ouais. Très dans bien. La vie pro et perso, vachement.
Manifestement.
Parfait. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même ta version, Julien?
Ouais. Non, mais en fait, Margot raconte pas tout. Margot est assez tendre avec moi parce qu'en fait, à l'époque, donc moi, je viens de province. Donc, j'avais importé mon look de province avec moi il y a 10 ans. Mm-hmm. Donc, vraiment, je ressemblais à rien. C'était catastrophique. J'avais vraiment que les mots pour la draguer. Et donc, ce qu'elle dit pas, c'est que bon, elle était pas intéressée parce qu'elle s'était maquillée avec un type. Mais surtout, parce que j'étais moi, je n'avais aucun intérêt absolument. Et donc.
Non, mais t'avais pas aucun intérêt, t'avais aucun look, mais.
C'était horrible.
C'est pas pareil.
Et donc.
On va peut-être vous demander une photo.
Ah, hein. Ouais, je trouve ça important.
Je pense que
pour
ce sera
archives.
Pour la story, du coup.
Mais. Et donc, voilà. Et je. Persuadé de l'effet de cette soirée, j'avais été voir la nana dont c'était l'anniversaire ce soir-là. Pour lui dire, alors Margot, elle dit ça publiquement, mais je lui dis, mais c'est la femme de ma vie, absolument. Et ça, en fait, pendant ça a duré les 3 ans ou 3-4 ans. Je dis, mais c'est elle, c'est
mais,
sûr
mais,
et ça.
Mais tu le pensais ou tu
Ah oui, je le pensais. Alors moi, j'ai tendance à exagérer un peu les choses, mais je savais qu'il y avait un truc, quoi, vraiment. D'accord. Et tout en étant persuadé que le message serait transmis, le message n'a jamais été transmis jusqu'à cette histoire d'adopter un mec. Et donc, en fait, tout le monde était au courant que j'étais fou d'elle. Et alors, bon, il y a une vie parallèle.
Enfin,
hein,
fou d'elle, ouais, calmons-nous, il ne m'a pas attendu non plus. Hein.
Oui.
Bon. Ah, excuse-moi.
Non, mais bon, on a l'impression que c'est genre le prince charmant sur son...
Il a fait ses armes. Il a
voilà.
Fait ses armes.
Exactement. Non, mais... voilà, j'ai attendu patiemment qu'elle soit libérée. Ouais, exactement. Et donc en soirée, effectivement, à chaque fois, donc mon look s'améliorait un peu, et effectivement, je lui sautais dessus tout le temps devant son mec, qui doit me détester, et sans doute, mais il a raison. Et voilà, et donc c'était super. Effectivement, il y a cette histoire de moi, je savais qu'il se passait un truc, quoi. Donc je savais qu'il y avait quelque chose, et le message n'a pas été passé par cette copine qui donc pensait que j'étais un vrai boulet, donc elle voulait épargner ça à Margot, c'est vrai, hein ?
Oui, c'est vrai.
Je te racontais la vérité.
C'est vrai, mais voilà. Maintenant elle t'aime beaucoup, elle te trouve super.
Oui, maintenant.
Oui, alors si on revient à cette fameuse soirée avec Camille, qui sous le sceau de la flatterie succombe à tes charmes, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe juste après ? Parce que t'as la validation de Camille, mais quid ?
Ah bah alors elle m'a forcé à envoyer un message, puisque moi je suis un peu à l'ancienne en fait, et donc j'attendais que le mec envoie un message. Bon, et puis ça n'arrivait pas tant que ça finalement.
Non, moi j'aime bien créer la rareté, je trouve que c'est important, ça crée du désir.
Il y a beaucoup de techniques.
Ah ouais, oui, je conceptualise beaucoup les choses, et effectivement c'était important de se laisser désirer.
Et donc n'ayant pas de nouvelles, je dis à Camille, bon bah j'ai pas de nouvelles. Et elle me dit, bon bah en fait on est en, je sais pas, 2015 ou 2016, je sais pas. Maintenant tu prends ton téléphone et tu lui proposes d'aller boire un verre. Donc je lui dis non, puis elle le fait d'elle-même en fait.
Ah oui.
Voilà. Et puis il m'a répondu tout de suite, et puis on s'est vus, c'était super. Et en fait on s'est pas trop quitté après, quoi. Enfin bon, la première année a été très compliquée, mais on s'est pas quitté quand même.
Ouais, exactement. Rebondir là-dessus. Oui, c'est vrai.
Mais je voulais justement parler de la première année, parce que tu t'avais évoqué le fait que c'était pas simple. Avant de parler de ça, si ça vous dérange pas, je voulais parler quand même du début de la relation, et notamment un moment qui nous intéresse toujours beaucoup chez Jimio, c'est quand on saute un peu des caps. Et un des caps importants, c'est le premier « je t'aime », malgré tout. Parce qu'on est évidemment très fleur bleue, vous pouvez l'imaginer. Comment est-ce que ça s'est passé ? Qui l'a dit en premier ? Est-ce que ça a été long ? Combien de temps vous avez attendu ? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu le moment où c'est arrivé ?
Oui, bien sûr. Ça a été très très long à venir. Parce que moi, je comme un peu tous les garçons de mon âge à Paris, j'ai un petit problème avec la notion d'engagement.
Juste, vous aviez quel âge à l'époque à peu près, du coup ?
Moi 25, toi 26.
Oui, 25-26 ans, d'accord.
Et donc, il était inconcevable de lui dire un truc aussi impliquant pour moi, avant longtemps. Mais j'étais très à l'aise avec la notion de longtemps, quoi. Donc, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Bon, et puis, à un moment donné, les choses existent sans qu'on ait besoin de les dire. Donc, y a quand même quelque chose qui est intangible, mais qui est vrai. Mais, sauf que, bon, les filles et les garçons, ils aiment bien quand même quand les choses sont dites.
En fait.
Voilà. Et donc, au bout de huit mois, où il n'y avait toujours pas eu d'évocation... du moindre
moi,
je t'aime, ça peut être
long, ouais.
C'est un peu long, et en même temps au moins on est sûr quand on dit
oui,
les choses. On m'a fait comprendre par avec beaucoup de douceur et de diplomatie comme avec son habitude qu'en fait il fallait que je me lance. Donc ça a été finalement le fruit d'une négociation, je pense qu'on peut le dire.
Non mais 8 mois c'est 100 fois trop long, ça n'existe pas.
Mais moi je suis très à l'aise avec cette durée.
Non. Enfin toujours pas, je suis toujours pas à l'aise.
Ils vont s'engueuler.
Non mais 8 mois c'est impossible, surtout que c'était totalement évident, donc c'est pas comme si, enfin en fait c'est ça qui n'avait aucun sens, c'est que c'était évident,
oui.
Donc en fait lâche-le.
Et tu voulais pas le dire toi en premier?
Non.
Il y a un petit problème d'orgueil.
voilà, ouais. Bon.
Non, c'est vrai, que je voulais pas le dire en premier, mais je sais pas, ça me semblait tellement évident que ça m'énervait en fait qu'il le lâche pas, quoi.
Je comprends, mais du coup ta réaction a été très positive quand le je t'aime est arrivé quand même.
J'avoue que je m'en souviens pas trop en fait.
Alors non, moi non plus. En fait, je me rappelle avoir fait des circonvolutions de langage absolument folles, genre parce que je chantais une espèce de pression, avoir à dire mais c'est pour ça qu'on s'aime, ou un truc qui voulait dire la même chose et qui avait pas été capté dans ce sens-là par Margot.
D'accord.
Qui voulait un classique et standard je t'aime, mais néanmoins sincère. Et donc j'avais fait des trucs comme ça, voilà. Et le vrai je t'aime, en fait, en vrai, je me rappelle pas du premier non plus.
Mais c'est pas grave parce que depuis, tu t'es très largement rattrapé, donc ça va.
Bon, tout va bien alors. On va continuer sur les notes positives avant de parler de la première année qui est un petit peu plus dure. Y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est quand on se met ensemble avec quelqu'un, souvent on apprend énormément de choses sur l'autre évidemment et sur soi-même. Et j'imagine, tu m'en as parlé un petit peu dans ton mail, que l'autre vous est bénéfique à plein d'égards et vous a peut-être donné plus confiance en vous, peut-être, je sais pas, fait découvrir certaines de vos qualités. Est-ce que vous sentez que vous avez changé depuis que vous êtes ensemble, et comment est-ce que vous avez changé vous, chacun un peu personnellement, ou est-ce que vous avez fait d'ailleurs peut-être changer l'autre, je sais pas.
Tu veux commencer, tu veux chance ?
Bah, moi j'ai vraiment changé. À deux égards. Le premier, c'est qu'il me donne énormément confiance en moi tous les jours. Parce que, comme beaucoup de femmes, je pense, je me remets en question. Quand j'ai une contrariété, je le prends pour moi, alors que c'est pas forcément le cas personnel. Et il me fait beaucoup relativiser. Il me dit tout le temps que je suis formidable et tout ça, parce que lui, il a confiance en lui. Il a beaucoup confiance en lui. Et du coup, il ne comprend pas que les autres n'aient pas confiance en eux. Et c'est un espèce de booster général, mais pas que pour moi, même pour les gens qu'il côtoie. Et franchement, c'est une force énorme d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés, parce que j'ai l'impression d'être une superwoman, quoi. C'est un plaisir.
C'est plutôt pas mal comme compliment.
C'est cool. Ouais, c'est cool.
Je sais pas ce que
ça
tu vas dire maintenant, mais c'est toi qui as la pression.
Moi, je suis assez casanier. Je suis assez dans la routine. Je suis assez. Il manque dans mon caractère un grain de folie et de créativité, d'inspiration que j'aurais pas si j'étais pas avec Margot, parce que elle m'apporte la folie que j'ai pas, en fait, et ça me fait beaucoup de bien.
T'as un exemple?
Non, mais ça peut être plein de choses. Moi, j'aime bien planifier les choses. Enfin, c'est des petits
comme
trucs du quotidien.
Comme le c'est minimum.
Voilà, non, voilà, c'est dans le même principe que les concepts et tout. Enfin, c'est de la surinterprétation de choses. Et je me laisse assez peu porter par les émotions. Et j'ai un regard assez froid sur les choses. Et elle m'apporte un peu de chaleur dans mes prises de. Enfin, dans ma façon de voir la vie. Et j'ai pas d'exemple particulier, mais c'est un peu tous les jours. Et ça me permet de me sortir de ma zone de confort, comme on dit pudiquement. Et c'est très agréable, parce que je pense que je serais quelqu'un de vraiment, vraiment très chiant si j'étais pas avec Margot tous les jours.
Et du coup, je demande à l'un et à l'autre, peut-être on commence par Margot, quel est ce que tu admires le plus chez Julien ?
Bah, clairement sa confiance, mais aussi son ambition, parce que en fait, je trouve que il va tellement toujours plus loin que je vois pas comment je pourrais détomber amoureuse de lui, parce que je l'admire beaucoup, quoi. Et ça me semble important.
Souvent un bon moyen de tomber amoureux, c'est sûr. C'est pour toi.
Moi, c'est sa créativité, parce que je trouve que elle envisage les choses avec. Toujours sous un prisme inattendu. Et c'est une fraîcheur et c'est un bonheur de regarder ça, quoi, parce que ça fait du bien d'envisager les choses avec créativité et toujours aller vers, je sais pas, quelque chose qu'on considérerait pas normalement, quoi. Et effectivement, il y a ce truc-là chez elle, toujours cette envie de faire des choses, d'apprendre des choses, de tester des trucs. Voilà, que je trouve...
Côté aventurier.
Ouais, vraiment. Ouais, vraiment.
Alors, si on revient à un moment un petit peu difficile, on aime bien poser la question à chaque fois dans le podcast d'un moment un peu plus dur dans la relation. Enfin, pas forcément d'un échec, mais en tout cas d'un moment qui a été suffisamment dur pour que vous en retiriez une expérience positive, un enseignement. En général, on s'en est sorti, puisqu'on vous a ici sur le podcast. Et donc, tu me parlais, Margot, de la première année qui n'était pas simple. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement un peu ce qui s'est passé et du coup, s'il y a eu des conseils ou des enseignements que vous pourriez nous livrer ?
Ouais, en fait, on n'était pas du tout calés. Il y avait un problème de rythme. On n'avait pas les mêmes envies au même moment, ce qui est toujours en vrai un peu le cas. Mais on arrive à dealer avec maintenant. Mais du coup, cette phase de calage, c'était vraiment apocalyptique. Vraiment, on ne se comprenait pas et on ne s'écoutait pas aussi beaucoup. Quand on s'est mis ensemble, moi, je voulais pas m'engager du tout parce que je sortais d'une grande relation. Donc, j'arrêtais pas de dire que je voulais rien. Mais en fait, comme toutes les filles, je voulais tout. Donc, débile. Et puis, lui, du coup, il me faisait des grandes déclarations. Mais en même temps, il m'avait pas attendu. Donc, il y avait 2-3 dossiers à clore quand même.
C'est important de clore les dossiers.
C'est important de clore les dossiers. Donc, c'était. Je pense que déjà, les 6 premiers mois, c'était pas des vrais 6 premiers mois. C'était un espèce de flou total. Peut-être pas 6 premiers mois, mais enfin voilà, il y a eu un petit temps, quoi.
Rajoutons des mois.
Mais en tout cas, et puis même la première année, donc cette phase de je t'aime à 8 mois qui était galère. Des vacances, ouais. Je sais plus.
Oui. Et puis j'avais des grands principes de vie absolument débiles. C'est-à-dire que je voulais vivre. J'étais persuadé qu'on pouvait vivre une vie absolument saine et épanouissante pour les deux personnes en n'habitant pas ensemble.
D'accord.
Voilà, donc j'étais vraiment très à l'aise avec le fait de vivre dans deux appartements séparés.
Mais ad vitam
aeternam. Oui, oui.
C'est-à-dire même pour toute la vie, pour toute la vie. Ans, voilà. Très bien. Mmh.
Voilà, je voulais habiter avec personne.
Mmh. Pratique,
voilà. Enfin, j'ai sorti de coloc, j'avais fait l'internat. Enfin, mmh. Voilà, et je m'étais dit que vraiment la liberté, qui est quelque chose à laquelle je suis très attaché, serait terminée en habitant avec quelqu'un. Donc j'avais ce principe de vie aussi, mmh, qui était complètement, complètement débile. Donc ça, c'était compliqué. Un autre truc très compliqué aussi, c'était le chat.
Ah ouais.
Parce que dans mon principe de liberté, j'ai un truc que je ne supporte pas, c'est d'avoir des contraintes que je n'ai pas choisies.
Bien sûr.
Et le chat, son chat, le chat de son ex en plus, je ne peux pas parler. Le chat qu'elle a choisi avec son ex, non, bon, il ne peut rien, le pauvre. Enfin, je parle du chat. Je parle du chat.
Bon, bref. Mais,
c'était une contrainte que je trouvais folle. Donc, en fait, c'est un détail logistique, mais comme on n'habitait pas ensemble, du coup, il fallait bien que quelqu'un aille chez quelqu'un. Mm. Que du coup, comme il y avait un chat, ben, tu vas dans l'appart où il y a le chat, parce qu'il faut nourrir le chat. Puis après, du coup, toi, tu as un chez toi, mais tu n'es plus chez toi. Donc enfin, voilà, c'est des trucs débiles, complètement crétins, mais au début tu te dis c'est l'enfer. Enfin, tu
vois. Mais ce qui est dur aussi, je me mets un peu à la place de Margot, c'est que dans ce genre de cas, t'as l'impression, enfin j'imagine, tu me diras si je fais une erreur, que tu fais pas trop d'efforts, parce que l'idée c'est de se dire, bah, en fait on essaie de donner une chance au couple, je comprends que t'aies des principes, mais essaye de faire des compromis. Donc comment est-ce que vous avez réussi à résoudre le truc?
Oui, non, mais c'est des principes débiles, donc c'est pour ça que et c'est ça que Margot elle fait sur moi, c'est qu'elle arrive à me sortir de ce genre de schéma de pensée qui sont complètement arc-boutés sur des trucs qui n'existent pas et qui me permettent d'aller vers autre chose. Et du coup, on s'en parle. Finalement, le chat, je le kiffe. Et c'est formidable et c'est complètement con de se dire que tu peux passer à côté d'une histoire à cause de croquettes de chat,
ouais,
tu vois. Sur le moment, t'as pas le recul, tu penses à des choses. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est une réflexion qui est à la fois égoïste et très court-termiste, mais bon, il se trouve que grâce à Margot, j'ai réussi à passer outre et à accepter ce chat, à emménager ensemble, à lui dire je t'aime et tout ça, et donc et c'est quand même cool.
Ouais, sachant que j'ai pour le coup effectivement foutu la pression sur le premier je t'aime, mais pas du tout sur tout le reste. Mmh. J'ai rien fait, ça est venu naturellement
Et heureusement que ça a été le cas aussi.
Et il y a eu un moment qui a été un peu un déclic, peut-être plus pour toi en fait. Alors au niveau du je t'aime, j'ai compris pas tellement, mais peut-être au niveau de l'emménagement ou du chat, où tu te rappelles que globalement, en fait, t'avais ces principes. Qu'est-ce qui a fait, si tu veux, que finalement tu t'es dit non, mais en fait, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble et qu'on soit heureux. Et c'est ça qui est le plus important.
Je sais pas s'il y a un déclic, mais il y a une vie qui est plus douce quand on est à deux, quoi. Un truc où quand on est ensemble, ça se passe bien, ou c'est plus épanouissant d'être avec elle que sans elle. Et donc, en fait, à force de multiplier les preuves dans ce sens-là, on se dit, c'est complètement naturel, et du coup, on emménage ensemble, et du coup, on fait des projets, et du coup, il y a une espèce de projection qui se fait dans notre histoire à deux. Mais ça vient avec le temps. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un acte fondateur de ça.
Non, mais je pense que je pense que le fait de... Du coup, j'ai appris de mon coup de pression du « je t'aime », et le fait de ne plus jamais faire ça, cette très mauvaise technique, et de toujours, au contraire, lui laisser une porte très ouverte, le laisser venir, pas de problème et tout ça, je pense que ça l'a beaucoup aussi mis en confiance, et que le fait d'avoir aucune pression a fait qu'il a eu envie, en fait, tout simplement.
Ouais, je comprends complètement.
Tu parles de moi comme un petit animal.
Mais non.
Pas du tout. Et alors, si on parle de l'emménagement, justement, vous l'avez fait au bout de combien de temps?
Du coup, un an et demi, je crois, non?
Ouais,
un an et demi, ouais.
Et ça s'est directement bien passé? Est-ce qu'il y a eu des petits... Comment est-ce que vous avez discuté un peu de ça? Et comment vous avez décidé dans quel appartement vous êtes allé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas simple, finalement, ouais. Quand en plus on est attaché comme vous à chacun, j'imagine, sa liberté. C'est vrai qu'aller emménager chez l'autre, laisser son chez soi et puis faire des compromis, c'est quand même jamais très très simple, quoi. Surtout quand on a un peu des personnalités différentes.
Ouais. C'était évident qu'on allait chez elle pour plein de raisons, notamment parce que l'appart était mieux et qu'on s'y sentait bien. C'était un appart où elle avait vécu en plus avec son ex fameux. Mais la condition sine qua non, c'était que je puisse me sentir un peu chez moi d'une certaine façon. Et donc on a fait des travaux. On a fait des petits travaux débiles, tu vois, on a refait la salle de bain et des placards pour que je puisse mettre mes fringues.
Je lui ai laissé carte blanche, en fait. Je lui ai dit, écoute, si tu veux être bien, en fait, tu fais ce que tu veux. Donc, il a fait une salle de bain toute noire, ok. Ouais.
Ce qui n'est pas pratique à nettoyer, donc on ne conseille
spécial,
vraiment pas les salles de bain noires.
Très spécial. Ouais.
Mais ça m'a permis de me sentir chez moi. Je pense que Margot, ça lui a permis d'avoir un appartement dans lequel elle se sentait, enfin, qui était un peu plus neuf que dans lequel elle était avant. Et ça s'est hyper bien passé. Ça s'est hyper bien passé. Sachant que moi, j'ai vraiment l'habitude de la vie en communauté. Je suis à l'internat depuis 15 ans. Donc voilà, j'étais en coloc partout, dans d'autres pays et tout ça. Et Margot, moins. Enfin, Margot, elle avait déjà vécu avec quelqu'un d'autre, un amoureux. Mais moi, j'ai jamais vécu avec une fille dont j'étais amoureux.
Et alors, ça s'est bien passé, les débuts ?
Ouais, moi, franchement, il n'y a eu aucun problème. Aucun problème. Il n'y a pas de... Non, en fait, vraiment, du point de vue de la logistique, des trucs... Enfin, il n'y a rien eu de... Tout a été très naturel.
Vous répartissez les tâches de façon homogène. Ouais. Vous en êtes satisfait.
Ouais. C'est toujours un petit sourire. Non, oui.
Non, c'est vrai que bon, il fait un peu plus que moi quand même, je dois dire. Ah. Mais du coup, c'est moderne.
C'est bien. Ouais,
bien sûr, on est un peu moderne.
Génial. Un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est le mariage. Je sais que vous n'êtes pas mariés, mais que vous êtes paxés. Est-ce que là aussi, vous pouvez me parler un petit peu de la discussion que vous avez eue et de comment c'est arrivé? Est-ce que c'était sincèrement un peu administratif, comme on sait que ça peut être parfois? Est-ce que c'était quand même une signification plus importante que vous, pour vous? Et est-ce que le mariage, c'est un sujet... Je mets les pieds complètement dans le plat.
Ouais, très à l'aise. Tu veux en parler? Tu veux que j'en parle?
Vas-y.
Putain. Du coup, je suis moins à l'aise. Non, en fait, on s'est paxé pour des raisons absolument administratives, puisqu'on a eu un projet d'achat d'appartement ensemble et que du coup, ça permettait que on s'en sorte l'un et l'autre si l'un et l'autre disparaissaient. Mais par ailleurs, on a essayé de faire un truc qui était un petit peu symbolique. Ça s'est passé très vite. Ça s'est passé dans le fameux café où j'avais dragué Camille. Parce qu'on a un notaire qui vient d'ailleurs.
Faussement draguer
Camille. Et du coup, on s'était dit que c'était marrant de le signer là. On s'est offert des bagues. On a fait un petit truc avec nos familles respectives. Et c'était très simple, très mignon. Mais à la base, il n'y a pas eu de demande de pax avec un genou à terre, ouais, etc.
Mais moi, je suis pas du tout romantique. Je pense que ça m'aurait gêné à mort. Donc, c'est très bien.
Très bien.
Et du coup, le mariage, c'est quelque chose qu'on envisage. Moi, j'ai un petit problème avec la notion de famille, que je trouve toujours un peu compliqué à gérer pour plein de raisons. Et du coup, le mariage, c'est un truc qu'on aimerait bien faire un peu plus tard, quand on sentira qu'on aura assez l'âge de gérer ces problématiques-là
en petit comité.
Ouais. Mmh. Ouais.
Et donc toi, Margot, t'es pas particulièrement attachée pour l'instant, en tout cas. Enfin, c'est pas. Tu disais que t'avais mis beaucoup la pression à Julien sur le je t'aime, etc. Mais maintenant, en effet, tu le laisses.
Non, pas du tout. Bah moi, mes parents se sont mariés 3 fois chacun, ce qui est quand même un petit record.
C'est pas mal. Quand même.
c'est une bonne stat. Bah après, c'était à chaque fois des super mariages, très amoureux et tout ça, mais. Bon, après, c'est vrai que ça m'a pas complètement. Ça n'a pas sacralisé le mariage. C'est pas du tout un objectif de vie pour moi. Si on se marie jamais, aucun problème. C'est pas du tout un sujet. Enfin, si on se marie, c'est cool. Mais
a priori, vous avez quand même prévu de le faire à un moment donné.
Bah,
mais
à 40 ans. Ouais.
En fait, on s'est dit à 40 ans. Ouais.
Ouais.
Très bien.
À 40 ans, on va faire une grosse fête. Et
oui, c'est ça,
voilà.
C'est l'occasion de faire une.
Exactement.
On avait un invité sur le podcast, Fabrice, je sais pas si vous l'avez écouté, mais pareil, en fait, lui était pas du tout mariage et elle, pour le coup, l'était, donc c'était un peu différent. Mais ils ont attendu assez longtemps et au final, ce qu'il disait, c'est ce qui était formidable, c'est que c'était juste l'occasion de voir sa famille, tous ses amis et de faire une énorme fête et que ça valait le coup rien que pour ça, quoi.
Bah, c'est ce qu'on se dit.
C'est ce qu'on se dit, ouais. Mais on aimerait un truc qui est détendu, quoi. Voilà.
Très bien. Bah, j'ai hâte de voir vos 40 ans arriver, comme ça, on verra comment ça se passe. Un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, qui me fait un petit peu rigoler, mais qui est intéressant, je trouve, c'est le sujet des disputes. Est-ce que déjà, il y a un sujet de dispute qui est un peu votre sujet de dispute, où c'est toujours la même chose? Et deuxième question, comment est-ce que vous désamorcez les disputes, maintenant que bah, vous êtes habitué quand même à les vivre? Est-ce que vous avez un peu des petits trucs, des petits conseils à donner pour faire en sorte que ça ne monte pas complètement dans les tours?
Alors, moi, le problème avec Julien, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, je pense, c'est que parfois, il se met dans un mutisme total. Et donc, il est dans sa caverne et il est totalement inaccessible. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quel est le problème. et on ne peut pas parler.
D'accord.
Et donc
c'est pas vraiment une dispute.
C'est pire que ça, c'est sourd.
C'est la
guerre froide.
C'est les tranchées.
C'est terrible. Il y a aucune assiette qui claque sur le sol. C'est au contraire.
Bien.
Mais oui. T'entends le vent, tu vois, dans l'appartement, c'est terrible.
Je tiens juste à préciser quand même que le sous-titre du podcast Jalalov, c'est amour, vaisselle et thérapie, à cause justement de cette histoire de vaisselle. Donc là, on est un peu déçu.
Il y a pas de vaisselle.
Il y a pas du tout de vaisselle chez nous. C'est très.
Enfin, il y a toute la vaisselle du coup.
Ouais. Et du coup, quand il est dans ce genre de phase, en fait, à la base, je m'énervais énormément. Je lui tirais les verres du nez, ça prenait des heures, et en fait, c'était lourd, 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 et pour lui, c'était pire que tout. Et j'ai appris assez récemment, finalement, le laisser, et même, aux surprises, à le rassurer, puisque en fait, je n'avais pas compris que... Parfois, il avait besoin d'être rassuré. Parce que comme il a tout à fait confiance en lui, que tout roule et tout ça, moi, je pensais que c'était un roc et qu'il n'y avait aucun problème. Et en fait, j'ai compris que parfois, il a besoin d'être rassuré, comme moi. Et donc, je joue ce rôle aussi et je le découvre, en fait, chaque jour.
Mais ouais, j'ai des failles. C'est normal, c'est humain.
Non, mais j'ai mis du temps à le comprendre.
Ouais, bien sûr,
mais
je crois que je ne l'avais pas verbalisé non plus.
Ouais,
non, mais c'est des trucs...
Là, tu ne sais même pas ce que tu as dans ce genre de cas. Et donc, du coup, pas tellement de disputes en réalité, plus un peu des bouderies, quoi.
Ouais, je pense qu'on peut, considérer que c'est des bouderies, ouais.
Moi, je suis assez boudeuse
aussi.
Je
pense que c'est ça.
Puis moi, je boude aussi.
Ça aussi, d'ailleurs, d'oublier parfois pourquoi tu boudes, ce qui arrive.
Ouais, ce qui est compliqué, du coup, c'est pour revenir sur pourquoi, c'est quoi. Ouais, ça arrive.
Donc, du coup, en termes de désamorçage, c'est plus que maintenant, t'es un peu plus à l'écoute, peut-être, et tu...
Ouais, puis c'est une histoire de communication, hein, je pense qu'à un moment donné, puis moi je pense que peut-être que j'apprends aussi à parler plus, à dire plus les choses, à envisager ce que je ressens, à envisager les de parler de façon plus ouverte, quoi.
Très bien, merci beaucoup. Avec le travail, les amis, les responsabilités, c'est pas toujours très simple de consacrer beaucoup de temps à son couple, évidemment. Surtout que j'imagine que vous connaissez pas mal tous les deux. Est-ce que vous avez mis en place des petits trucs, des petites routines, toi qui aimes bien les routines, des petits rituels peut-être, pour justement vous consacrer du temps l'un à l'autre?
Alors c'est souvent autour de la bouffe, hein. voilà. Donc on se parlait des petits déj pour faire les tests micro. Ouais. Les petits déj sont très importants parce qu'on se fait des petits fruits coupés, c'est
J'ai
très sympa.
Que...
Et on a un rituel qui est pas un rituel routinier, mais qui arrive de temps en temps, qui sont les apéros de l'amour.
Tu lâches le dos comme ça.
Non, mais c'est pas un dos.
C'est brandé.
Ouais, mais là, si on fait les choses, on est une charte et tout.
On risque de vous le piquer. Parce qu'on est quand même un peu le joyeux de l'amour. Donc,
Les apéros de l'amour, voilà, on vous donne, qui est un concept qui consiste à boire du vin rouge et à faire des apéros un peu plus sympas que d'habitude, hein, puisqu'on en fait quand même par ailleurs. Mais. Pour
mais
se retrouver
que tous les deux,
c'est
le mandatory. Hein.
Voilà.
Et vous les faites chez vous, ces apéros d'amour, ou c'est au
restaurant? En fait, on va assez peu au resto. Hein. En vrai.
Depuis qu'on a notre nouvel appartement.
Ouais, on a tendance à un peu rester.
Mais trop bien en fait.
Donc il y a ces apéros de l'amour et il y a les classiques après les anniversaires, on se fait un peu des trucs coolos, mais on n'a pas de routine particulière. Bon, une fois que tu t'es parlé au petit déj et que t'as fait un apéro de l'amour, t'es bien,
mal,
tu vois.
Bien,
voilà.
Ouais.
Non, puis en vrai, on passe beaucoup de temps ensemble, en fait. On fait beaucoup de choses ensemble, donc
beaucoup.
On n'a pas de manque de se voir. On est assez collés quand même.
Puis on travaille dans la même boîte aussi,
donc
ça permet de rassembler un peu. Ouais.
Et d'ailleurs, vous travaillez de temps en temps ensemble ou pas du tout sur les mêmes sujets? Donc vous faites en sorte quand même que ça n'arrive pas. Ça a pu arriver?
C'est arrivé, ouais. C'est arrivé une ou deux fois, ça s'est bien passé. On aime bien travailler ensemble.
En fait, on travaille super bien ensemble, mais on essaye juste d'éviter par principe parce qu'on se dit que c'est pas forcément idéal pour un couple. Mais en vrai, ça fonctionne super bien quand on travaille ensemble.
Bon, parfait. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie mille fois. J'ai une dernière question que j'adore poser qui est, si on revenait un petit peu en arrière, on parlait de vous quand vous aviez 25 ans, etc., et que vous étiez encore sur Adopte un mec, en train de galérer un peu pour trouver l'âme sœur, est-ce que vous auriez un conseil à donner au petit Julien, la petite Margot, enfin petit de 25 ans, pour lui livrer, selon vous, le secret du bonheur à deux?
Putain, c'est dur.
Pas facile.
Ouais, c'est dur.
Alors moi je dirais plusieurs trucs. Alors, déjà il y a une histoire de look que j'aurais amélioré très rapidement. C'est important.
Déjà les lunettes rectangulaires sans bord, c'est impossible.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est
je pense que j'aurais arrêté de dire à Alexandra, la fameuse copine, que Margot était la femme de ma vie, j'y serais allé direct. Et puis c'est un truc sur s'écouter, se faire confiance et se détendre sur les sujets, s'il n'y a rien de grave là-dedans, c'est plutôt léger. Et on prenait peut-être les choses avec un peu trop de sérieux à l'époque. Voilà. Et toi ? Vas-y.
J'espérais qu'on allait finir là-dessus, mais pas du tout.
Non, on attend ta réponse.
Alors, qu'est-ce que je changerais ? Qu'est-ce que je dirais à Margot de changer ?
Non, pas de changer, mais quel conseil tu pourrais lui donner de quelque chose qu'elle ne faisait pas forcément ? Ou de changer ?
Je lui dirais de bien se détendre. Franchement, j'ai...
C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à Young Margot.
Faut bien se détendre, quoi. Franchement, j'étais très, très...
Mais qu'est-ce que tu as dit à bien se détendre ?
Bah, j'étais assez impulsive, voire un peu caractérielle, compliquée. Et en fait, je ne le suis plus et c'est mieux, quoi.
Enfin, donc, laisser un peu de l'est sur les choses, pas prendre les choses trop à cœur.
Prendre du recul, arrêter de faire des dramas, en fait. Ça ne sert à rien, ça fait chier tout le monde.
Très bien, et ça, c'est grâce à Julien que tu as arrêté.
Ouais.
On peut le remercier.
Merci. Merci, Julien.
Merci à toi, maman.
Et en tout cas, je vous remercie tous les deux pour votre temps. Je vous dis
merci beaucoup.
Merci beaucoup,
à très vite.
À très vite.
Bonjour à tous et quelques derniers petits détails avant de vous quitter. Alors d'abord, vous pourrez retrouver cet épisode et les liens vers les contacts de nos invités sur le site de Gemio, www.gemio.com, rubrique podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur Instagram ou Twitter si leur histoire vous a touché. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités ou peut-être même nous proposer votre histoire d'amour, eh bien envoyez-nous tout simplement un email avec un peu de détails sur votre relation à l'adresse email suivante, partenariat avec un S, @gemio.com. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram au pseudonyme Gemio, G-E-2-M-Y-O, pour être sûr de ne louper aucun épisode et découvrir l'envers du décor de nos podcasts. Enfin, si vous voulez nous donner un peu d'amour à votre tour et que le podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à simplement nous mettre un petit mot doux ou même une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Ça nous aide énormément à répandre tout cet amour autour de nous. Une merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Chalalove.